RTL Matin,
Thomas Soto et Amandine Bégaud.
Le journal de 8h vous est présenté par Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Thomas, bonjour Amandine et bonjour à tous.
À la une ce matin, les révélations de RTL sur ces ados payés pour brûler des voitures devant nos prisons.
À 2 mois après la vague d'attaques qui a visé l'administration pénitentiaire, on vous dévoile ce matin comment ces petites mains ont été méthodiquement recrutées sur Internet. Emmanuel ne comprend jamais rien. Donald Trump s'en prend ce matin au président français. Non, dit-il, il n'a pas quitté le sommet du G7 pour négocier un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. À suivre également ces frappes russes qui ont fait 14 morts cette nuit à Kiev. Fumée blanche ou noire, le conclave sur les retraites s'achève ce soir. Et puis 40 ans de succès, la tournée d'Indochine qui fait un carton fait escale ce soir à Paris.
RTL Matin.
Des voitures incendiées, des tirs de mortiers et même d'armes automatiques. 2 mois après la série d'attaques contre nos prisons, RTL vous dévoile ce matin qui sont les exécutants et comment ils ont été recrutés.
Une vingtaine de personnes ont été mises en examen pour l'instant dans ce dossier. Quelques donneurs d'ordre, mais surtout des petites mains, parfois très jeunes, Thomas Proutot.
Oui, à l'exemple de Samia, une ado marseillaise de 16 ans, interpellée en mars dernier dans une affaire de stupéfiants. Elle ressort libre, mais avec une dette de 900 euros envers un trafiquant. D'après son récit aux policiers, la jeune fille est recontactée 1 mois plus tard par le même homme sur la messagerie cryptée Signal. Pour apurer sa dette, il lui ordonne d'aller incendier des véhicules devant la prison de Tarascon. La jeune fille s'exécute, voiture, chauffeur et jerrycan d'essence sont fournis. Sur place, elle franchit le grillage et met le feu à 3 véhicules, mais elle repart dans la précipitation et abandonne une doudoune. Un ADN très vite identifié conduit à la mineure qui déballe tout en garde à vue sans pouvoir nommer le commanditaire autrement que par son pseudo B2.
Et on retrouve à chaque fois ou presque ce même mode de recrutement, Thomas.
Oui, un procédé quasi identique pour chaque attaque. Un donneur d'ordre qui contacte un petit délinquant sur un groupe Signal quelques jours avant, contre promesse de rémunération, parfois accompagné de menaces. À chaque fois, le matériel est fourni. À chaque fois, les exécutants doivent taguer DDPF pour droit des prisonniers français et filmer. Des éléments qui confirment une solide planification, même si l'amateurisme des petites mains a conduit à de nombreuses interpellations. Un instigateur au cœur du réseau a été identifié dès la fin avril. Un détenu de 23 ans, proche du groupe criminel DZ Mafia, il affirme n'avoir été lui-même que l'intermédiaire de 2 commanditaires dont il dit ne connaître que les pseudos Diego et Koala. Les enquêteurs ne les ont pas identifiés à ce jour.
Information RTL signée Thomas Proutot. Les airbags défectueux de la marque japonaise Takata ont fait une nouvelle victime, une mère de famille d'une quarantaine d'années décédée la semaine dernière à Reims. C'est le 2e accident mortel en métropole. Et puis les obsèques de Mélanie, cette surveillante de 31 ans tuée par un collégien la semaine dernière à Nogent, auront lieu aujourd'hui. Cérémonie chez elle, à Sarcey, dans la plus stricte intimité.
RTL, il est 8h03. Guerre Israël-Iran, l'effrayante engrenage. Titre la Dépêche du Midi. Israël a le droit de se défendre, mais il faut protéger les civils. Ça, c'est la déclaration commune publiée très tôt ce matin par les pays du G7 réunis au Canada.
Et ils ne sont plus que 6 désormais autour de la table, puisque Donald Trump a quitté prématurément ce sommet une fois publiée cette déclaration. Voilà pourquoi expliquait tout à l'heure Emmanuel Macron au micro RTL de Bénédicte Tassard.
Ce qui est important, c'est qu'il y ait une reconvergence. C'est le fait que le président Trump s'engage personnellement dans les prochaines heures à obtenir justement un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran est une très bonne chose. Le fait qu'il s'engage, ce qui a toujours été notre ligne, à ce qu'on reprenne la discussion sur la limitation du nucléaire et du balistique. Le fait qu'il puisse s'engager après les discussions de ce matin sur la Russie est une très bonne chose. Il faut maintenant qu'on arrive à accélérer nos travaux communs sur le commerce et obtenir enfin un accord le plus vite possible entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique.
Eh bien, tout cela est faux, vient d'écrire sur son réseau social Donald Trump, qui répond de manière cinglante au président français Charles Ducrot.
Oui, il se trompe, lance le président américain sur son réseau Truth Social. Je cite, le président Macron, en quête de publicité, indiquait que je quittais le sommet du G7 pour travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux, écrit Donald Trump avec un point d'exclamation. Il n'a aucune idée de pourquoi je rentre, mais cela n'a rien à voir. Avant d'ajouter cette phrase qui affole tous les observateurs, much bigger than that. C'est bien plus gros que ça. Que prépare Donald Trump, qui se montrait plutôt prudent dans ses dernières déclarations sur cette guerre entre Israël et l'Iran, et le président américain de conclure, Emmanuel se trompe toujours. Restez connectés.
Merci beaucoup Charles Ducrot.
L'autre déclaration marquante de ces dernières heures, c'est celle de Benjamin Netanyahou à la télévision américaine.
Le premier ministre israélien assure que tuer le numéro 1 du régime iranien, l'ayatollah Khamenei, mettrait fin au conflit. Betsabeh Salem, on vous retrouve en direct de Tel Aviv. C'est ça désormais l'objectif du gouvernement israélien, éliminer le guide suprême?
Écoutez, c'est la question qui agite les commentateurs, même ici en Israël. Quel est le véritable objectif de Netanyahou? Jusqu'où Israël est-il prêt à aller? Alors c'est vrai qu'il y a eu ces déclarations du Premier ministre à la télévision américaine. Hier soir, en conférence de presse, Netanyahou, après avoir rappelé les objectifs premiers de cette guerre, à savoir neutraliser la menace nucléaire et la menace des missiles balistiques, a laissé entendre que c'était l'Iran en tant que puissance terroriste qu'il comptait éliminer. Des déclarations qui finalement laissent subsister un certain doute. D'ailleurs, selon des responsables des renseignements, ici, la décision de renverser le pouvoir iranien n'a pas encore été prise. Cela pourrait dépendre de plusieurs facteurs, comme du soutien ou non des États-Unis, ou encore de l'intensité des attaques iraniennes, puisque renverser le pouvoir iranien impliquerait une guerre plus longue et potentiellement plus meurtrière.
Betsabé Salem, correspondante de RTL en Israël, où les sirènes anti-aériennes ont de nouveau retenti il y a quelques minutes. On ne sait pas si cette nouvelle salve de missiles iraniens a fait des victimes. L'armée israélienne, elle affirme avoir mené plusieurs frappes de grande envergure cette nuit contre des cibles militaires dans l'ouest de l'Iran.
Et une guerre ne doit pas faire oublier l'autre. Il y a eu des frappes russes massives et particulièrement meurtrières cette nuit à Kiev.
Elles ont fait au moins 14 morts. Un Américain notamment, annoncent les autorités ukrainiennes. Stéphane Sion, vous êtes le correspondant de RTL en Ukraine. 14 morts en une seule nuit, ce n'était encore jamais arrivé dans la capitale.
Oui, tout à fait. Il y a un bâtiment qui a été littéralement éventré dans le quartier de Solomianski, qui est un faubourg de la capitale ukrainienne. On voit des images qui sont absolument affreuses, avec un bâtiment haut de plus de 10 étages qui a été littéralement coupé en deux. Ça a été une nuit d'horreur sur la capitale ukrainienne où la ville a été littéralement survolée de drones absolument toute la nuit. Il s'agit là bien d'une aggravation de la situation ces derniers jours. Il faut également souligner que depuis plusieurs semaines, les frappes sur la capitale ont augmenté en cadence. Désormais, on estime que sur une nuit, ce sont 300-400 drones kamikazes qui peuvent attaquer Kiev. Et d'ailleurs, les experts militaires estiment que la stratégie des Russes va être d'augmenter ce nombre de frappes de missiles et de drones afin de saturer la défense antiaérienne. Ce sont donc des nuits extrêmement difficiles que vivent les Ukrainiens. Et d'ailleurs, le bilan devrait sans doute augmenter vu le nombre de blessés.
Stéphane Siouan en Ukraine pour RTL.
Il est 8h07 sur RTL. Le conclave sur la réforme des retraites s'achève en principe ce soir, et rien ne dit que syndicats et patronats parviendront à un accord.
Et il faut que ça se termine ce soir, vient de dire sur RTL la patronne de la CFDT, Marie-Lise Léon. Pour elle, la balle est dans le camp du patronat. S'ils veulent un accord, ils doivent accepter nos propositions sur la pénibilité. Autre sujet toujours en discussion, la décote, pouvoir partir avec une retraite à taux plein des 66 ans et non plus 67 ans, même si vous n'avez pas tous vos trimestres. Alors qu'en pensent les futurs retraités? Reportage RTL de Clémence Duchesne à La Défense, région parisienne.
Sur le parvis de ce quartier d'affaires, à l'heure du déjeuner, on croise beaucoup de salariés pressés, badge autour du cou. Lorsqu'on leur parle de retraite, ils sont nombreux, comme Agnès, à vouloir choisir la décote.
J'ai calculé, c'est 50 euros par mois, bon, je peux me permettre de m'en passer.
Alors que 6 mois, vous ne voulez pas vous en passer?
Non, parce qu'on ne connaît pas les années santé, donc voilà, on a tous des exemples de personnes malades ou décédées, voilà, ça arrive entre 63 et 70 ans, donc je suis à 6 mois près.
En 20 ans, la part des Français à avoir fait ce choix a presque doublé, 67 ans ou 66 ans. Pour Daniel, qui devra aller jusqu'au bout pour un taux plein, la différence est minime.
On sortira un an plus tôt, voilà, mais dans quel état? On va plus être efficace. D'après nos patrons, donc, ils vont gentiment nous mettre au placard pour qu'on sorte gentiment.
Et c'est là le cœur du problème pour Frédéric Gesque, la présidente de Senior for Good, une association de valorisation de ses salariés expérimentés.
La manière dont les seniors, en fait, pendant des années, ont été mis à l'écart ou bien ont été préparés au départ, tout ça aussi, ça joue dans le fait que les Français, du coup, préfèrent partir à la retraite avec des cotes.
Et la mesure, si elle était adoptée, coûterait 1,2 milliard d'euros à l'horizon 2030.
Clémence Duchesne, le groupe macroniste votera contre le projet de loi simplification cet après-midi à l'Assemblée. C'est ce texte qui prévoit notamment de supprimer les ZFE, les zones à faible émission, mises en place pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air. Autre outil pour lutter contre le dérèglement climatique, MaPrimeRénov', ce dispositif qui permet de financer une partie de vos travaux de rénovation et qui devait être suspendu cet été en raison d'un grand nombre de dossiers frauduleux. Mais le gouvernement fait en partie machine arrière, Pierre Herbulot, il sera toujours possible en fait cet été de faire des demandes pour des petits travaux isolés comme l'installation d'une pompe à chaleur.
Oui, l'idée c'est de ne surtout pas fermer le robinet des aides, juste de restreindre un peu le goulot. Depuis le début de l'année, 122 000 ménages ont pu bénéficier du dispositif pour environ 1,5 milliard d'euros, près de la moitié de la somme budgétée. Deux fois sur trois, c'est pour un monogeste, changer des fenêtres par exemple, montant moyen 4 000 euros. Ça va donc continuer cet été, contrairement aux travaux de rénovation globale, beaucoup plus lourds et plus chers. 40 000 euros d'aide en moyenne. Les fraudeurs y ont vu un filon juteux. 16 000 dossiers suspects depuis le 1er janvier, explique le ministère du Logement. D'où la nécessité de tout remettre à plat. Pour ces gros travaux, les aides vont être suspendues dans les prochains jours et jusqu'au mois de septembre. Le guichet devrait rouvrir dans une forme allégée, réservée aux logements les plus mal isolés. Le bonus dit de sortie de passoire thermique, 10% du montant des travaux, pourrait lui ne pas survivre jusqu'à l'automne.
Les précisions de Pierre Herbulot du service économie de RTL.
Il est 8h10 et à cet instant précis, vous allez faire très plaisir à notre monsieur conso sur RTL, Olivier Dauvert, qui est le premier fan mondial d'Indochine. Eh bien, Indochine va enflammer l'Accor Arena de Paris.
Oui, Nicolas Sirkis et ses camarades en concert ce soir dans la capitale, puis trois autres nuits cette semaine. Leur tournée est un véritable carton. Marie Jiquel, point d'orgue d'une histoire d'amour qui dure depuis 40 ans avec leurs fans.
Aller voir Indochine, c'est comme gagner l'auto, en fait.
Et oui, malgré la centaine de dates de l'Arena Tour, la tournée la plus longue d'Indochine, les fans ont dû se battre pour obtenir une place. Les 940 000 billets se sont arrachés en quelques jours.
On essaye de les suivre un peu partout. C'est toujours la bonne humeur, la bonne ambiance.
Bah, franchement, le dernier album est top. Ouais, il est génial.
Vous les avez vus combien de fois ?
Oula, plus de 70 fois. J'ai eu la chance de lui serrer la main une fois, Nicolas, à un concert à Nice. Ouais, depuis, je ne me suis pas lavé la main.
Dans l'ADN du groupe, des shows spectaculaires, concerts de 2h30, écran XXL, kilomètres de guirlandes lumineuses au plafond. L'expérience Indochine doit se vivre sur scène, selon Nicolas Sirkis, invité sur RTL l'année dernière.
La réalité du groupe, elle est sur scène. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Je pense qu'on est un groupe vivant qui respecte son public. Ça les fait rentrer dans une sorte de fascination mutuelle.
Bercy, l'Accor Arena, une seconde maison pour Indochine. L'un des groupes à y avoir le plus joué, le premier à l'avoir rempli.
Indochine en concert ce soir à l'Accor Arena de Paris. Merci beaucoup, Marie Jiquel.
Merci à vous, Sébastien. On vous retrouve tout à l'heure pour le grand journal de 9h. Notre météo, Louis Baudin, on a un petit message de notre fidèle auditeur René de Champagnole. Ça faisait plusieurs jours que vous n'avez pas écrit au 64 900. 11 degrés ce matin. Ciel clair donc à Champagnole dans le Jura. Bon courage et bonne journée à tous. On vous embrasse, René.
Et ce ciel clair, on le retrouve presque partout hein, ce matin, un ciel tout bleu. Alors sauf dans le nord-ouest, c'est vrai que sur le nord de la Bretagne, le Cotentin, ou encore une partie également de la Seine-Maritime, on a encore quelques nuages, quelques brouillards là, à Saint-Brieuc, à Dinard, à Deauville, à Cherbourg ou encore au Havre, mais tout ça va vite disparaître. Et tout au long de la journée, donc c'est bien le soleil qui s'imposera très largement. À noter quelques petits développements nuageux au nord de la Loire cet après-midi, un petit peu comme hier, pas de conséquences, belle luminosité, le soleil s'imposera, pas de précipitations. Ce risque d'averse, on le retrouvera quand même dans les Alpes du Sud, là sur le relief, où comme hier, il y aura peut-être en fin de journée donc une averse, mais ça sera très très limité. Fini la séquence de Mistral dans la vallée du Rhône, et puis les températures qui vont donc s'envoler. Alors même si ce matin on est parfois en dessous des 10 degrés à Guéret, à Romorantin ou à Vichy par exemple, cet après-midi, 21 à 24 degrés près de la Manche, pas moins, 27 à 31 degrés dans toutes les autres régions, ce sont des températures de juillet, hein, comme si on était au cœur de l'été, et on ira même jusqu'à 33 degrés à Nîmes, 34 degrés même à Perpignan.
Merci beaucoup à vous Louis Baudin, on verra si ce mois de juillet anticipé se prolonge dans les jours qui viennent. Météo à 7 jours à suivre tout à l'heure à 8h30.
Dans un instant sur RTL, on revient sur ce verdict passé un peu inaperçu mais qui devrait tous nous interpeller. De jeunes de 14 ans condamnés à 7 et 9 ans de prison ferme pour viol, le papa de la victime a choisi RTL pour réagir. À tout de suite.
Thomas Soto, Amandine Bégaud.
RTL Matin jusqu'à 10h.
Donc là, si je fais un entretien chez vous, ça veut dire que...
Ça veut dire que vous repartez avec un an de garantie Toyota Relax.
Allez.
Un entretien est égal à un an de garantie, tout simplement. Même si vous n'êtes jamais venu chez nous.
Oh là là, 1 égale 1. Avec des maths comme ça, j'aurais eu 20 au bac.
Eh oui, un seul entretien dans notre réseau agréé Toyota suffit pour bénéficier d'un an de garantie Toyota Relax, même si votre véhicule est d'occasion.
Vous êtes fort en maths ?
Ça va.
Toyota. Valable à l'issue de la garantie constructeur jusqu'au 10 ans ou 185 000 km de votre Toyota au premier dès 2h matin, voire conditions sur toyota.fr. Pensez à covoiturer.
Carrefour. Chez Carrefour, pour deux boîtes de glace nuit achetées, la troisième est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur.
Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RTL. Drive.
dragon. Depuis des générations, ils ont grandi en apprenant à craindre ces créatures.
Ces bêtes sont une menace pour nos terres.
Mais Harold, lui, a décidé de défier les traditions.
Je suis le premier viking qui veut pas tuer de dragon.
Pour sauver un furie nocturne, il va tout risquer.
Tout ce qu'on sait sur les dragons est faux.
Dragon, une aventure époustouflante, actuellement au cinéma, avec RTL.
RTL Matin. Avec Amandine Bégaud et Thomas Soto.
Il est 8h15, l'interview d'Amandine Bégaud. Et vous avez donc choisi de revenir ce matin, Amandine, sur un verdict qui est passé un peu inaperçu vendredi soir. Il concerne trois mineurs, dont deux ont été condamnés à 7 et 9 ans de prison ferme pour avoir violé une jeune fille de 12 ans. Viol dont le caractère antisémite a été reconnu par la justice. Ça s'est passé à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, il y a pile un an. Et ce matin, le papa de la victime a accepté de parler. Il est donc en direct avec vous. Bonjour et bienvenue à vous, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour Madame Bégaud.
Et merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Ce procès, il a eu lieu la semaine dernière devant le tribunal pour enfants de Nanterre. Procès auquel votre fille, qui a aujourd'hui 13 ans, a tenu à assister. Comment va-t-elle aujourd'hui, 4 jours après ce verdict ?
Eh bien, ma fille est toujours très stressée par effectivement cette expérience du tribunal. Il a beaucoup chamboulé. Effectivement, se retrouver face à ses agresseurs n'était pas une mince affaire.
J'imagine que ça a été très dur pour elle. Effectivement, on rappelle les faits. Elle a été frappée, insultée, violée. Comment, quand on a 13 ans, on vit ce genre de choses, forcément mal?
C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, ma fille a toujours des cauchemars. La nuit ou des flashbacks des événements traumatiques qu'elle a subis. Elle se livre moins aux autres, elle hésite à sortir seule, elle voudrait aujourd'hui se faire toute petite pour ne pas attirer l'attention à elle.
Et pourtant, elle a tenu à assister à ce procès.
Elle a tenu, effectivement, c'est une enfant très courageuse qui a voulu obtenir des explications de ce qui s'était passé. Elle a voulu comprendre pourquoi un tel déchaînement de violence sur elle. Pourquoi a-t-elle été victime? Quel était l'enchaînement? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces agresseurs? Comment aujourd'hui peut-on comprendre que des jeunes de 12 et 13 ans aient une telle haine vis-à-vis d'une jeune fille de son âge, dont d'ailleurs deux de ces gamins ne la connaissaient pas avant les fêtes?
Il faut rappeler qu'elle connaissait le plus jeune des trois et c'est lui qui l'a attiré ce jour-là dans un endroit isolé et qui l'a livré, si j'ose dire, aux deux autres. On entend bien sûr, monsieur, l'émotion très forte aussi qui est la vôtre. Comment allez-vous, vous, après ce procès?
Nous sommes toujours chamboulés. Ça a été un procès très éprouvant. Nous aussi, nous avons souhaité comprendre. Et ce que nous avons effectivement compris, finalement, c'était le raisonnement très simpliste de ces jeunes. Ces jeunes qui sont musulmans ou convertis à l'islam. Et de manière très binaire pour eux, les musulmans sont du côté des Palestiniens, les juifs du côté d'Israël. Et les réseaux sociaux étant abreuvés de discours haineux contre Israël en raison de sa riposte à Gaza au pogrom du 7 octobre 2023, ma fille est devenue comptable des exactions présumées commises par le gouvernement israélien. Et à partir de là, ils se sont trouvés justifiés de leurs actes criminels envers ma fille. Donc c'est un raisonnement terrible qui a été effectivement reconnu par le tribunal au travers des circonstances aggravantes d'antisémitisme. C'est une forme d'antisémitisme qui est là depuis plusieurs années, depuis l'affaire Ilan Halimi, où effectivement à cette époque les agresseurs avaient aussi parlé de la Palestine pour justifier de leurs actes contre un Français juif.
Le caractère antisémite de ce viol a en effet été reconnu par la justice. Et l'un de vos avocats nous disait ici même sur RTL la semaine dernière, si votre fille n'avait pas été juive, elle n'aurait sans doute pas vécu le cauchemar qu'elle a vécu. C'est aussi ce que vous pensez?
Antisémitisme, oui, absolument. Absolument, on ne peut pas expliquer un tel déchaînement de violence sans le caractère antisémite de l'agression, sans y faire référence. Sinon, comment comprendre ce qui a pu se passer? Ma fille a été injuriée tout de suite, dès les premières minutes de l'agression. Sale juive de merde, ont-ils dit. Et au-delà de ces injures, effectivement, elle a été battue, séquestrée pendant 51 minutes, violée 5 fois. On ne peut pas comprendre cela sans cette haine qui est véhiculée par les réseaux sociaux et dont les jeunes sont abreuvés, malheureusement, sans prendre le recul nécessaire. Parce qu'ils n'y connaissent rien.
Comment vous expliquez justement qu'on en soit arrivé là aujourd'hui, que de si jeunes enfants, parce que ce sont des enfants à 13 ou 14 ans, et à ce point une vision, j'allais dire, extrêmement manichéenne de tout ce conflit, qui est loin et qui aujourd'hui est dans leur quotidien, ce sont les réseaux sociaux d'après vous ?
Oui, ce sont les réseaux sociaux. Pour moi, on a retrouvé un drapeau israélien brûlé dans le téléphone portable de l'instigateur principal de cet acte criminel. On sait qu'ils ont visionné des vidéos très violentes de décapitation, de choses comme ça, au-delà des vidéos pornographiques, mais il y a eu aussi cet aspect-là.
Quotidien.
Effectivement, les réseaux sociaux, effectivement, leur arrivent en fait sans filtre. Pour eux, ils n'ont pas la connaissance historique, ils ne connaissent pas forcément la Shoah et ce qui a pu se passer, en 39-45. Donc, ils sont abreuvés de haine et malheureusement. Certaines personnes importent le conflit israélo-palestinien en France sans se rendre compte des conséquences que ça peut avoir sur la communauté juive française.
Il y a une responsabilité d'un certain nombre de responsables politiques notamment, c'est votre sentiment ?
Absolument.
Ce drame est terrifiant et quand on vous entend raconter les détails, on ne peut qu'être bouleversé. Bien sûr, votre vie a complètement changé, vous avez déménagé, il y a eu ce procès. Pourquoi prendre la parole aujourd'hui, monsieur ?
Aux Palestiniens. Pour effectivement dénoncer ce phénomène des réseaux sociaux qui est incontrôlé. Que la France, effectivement, s'éveille par rapport à ce danger. Et je voulais aussi saluer la décision exemplaire de la justice, qui a été ferme, et qui envoie un signal clair à la société française de l'importance du vivre ensemble, selon les principes de la République. La décision fournit aussi un cadre pour penser l'antisémitisme au travers de l'antisionisme, qui est, je crois, une chose très importante.
7 et 9 ans de prison ferme, je le rappelle, pour ces deux jeunes garçons. Ils ont risqué 10, compte tenu de leur âge, ce sont des peines donc très sévères. J'ai juste une dernière question, monsieur. Vous avez le sentiment aujourd'hui que les Juifs sont en danger en France ?
L'importance du vivre ensemble. Bien sûr, on a vu une recrudescence des actes antisémites, 1570 actes antisémites en 2024, un peu moins en 2023, mais comparé aux années précédentes, c'est beaucoup plus élevé. Tout le monde n'est pas venu à la marche contre l'antisémitisme en novembre 2024. Et je pense qu'un cadre sécuritaire doit être amélioré effectivement pour les Juifs en France, dont beaucoup choisissent de partir en Israël malheureusement.
Merci beaucoup monsieur d'avoir pris la parole ce matin et je me permets d'adresser toutes nos pensées aussi à votre fille. Merci.
Merci à vous. Dans un instant, restez avec nous, c'est Philippe Cavrivière qui nous rejoint sur RTL, il est
8h24. RTL Matin, Thomas Soto et Amandine Bégaud.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 Banques Populaires, première banque des PME.
Claire, ce qu'elle aime dans la vie, c'est le vert et ce qui est offert. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, c'est nous, Engie. Et oui Claire, en ce moment et jusqu'au 12 septembre 2025, Engie vous offre 100 euros pour la souscription d'un nouveau contrat d'électricité ELEC Référence 3 ans. Et bien sûr, c'est une électricité verte certifiée à 100% par des garanties d'origine renouvelable. C'est pas super ça Claire? Appelez le 3443, service et appel gratuit. Voir les offres électricité éligibles et conditions de l'offre sur particulier.engie.fr. J'agis avec Engie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Ça a glissé, la voiture se retrouve dans le fossé.
Quand Stéphane a eu son accident, Maxime, son agent mutuel de Poitiers, était là pour lui.
Je lui dis, écoute, t'inquiète pas, on va gérer ça ensemble. T'es pas tout seul, en fait.
Et là, à partir de là, déjà, la pression commence à redescendre, quoi.
C'est un père de famille, il a sa femme, sa fille sur le bord de la route. On se met à leur place parce qu'on les connaît et qu'on les voit plusieurs fois par an. Donc, c'est à partir du moment où on les connaît le mieux qu'on les assure le mieux, quoi.
Et c'est ça le gros point fort, en fait. Je suis une personne, je suis pas un numéro de contrat.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Vous avez un nouveau message.
Allô patron, ils nous ont encore pris de court chez Lidl. En ce moment, le kilo de courgettes est à 1,39€ et même à 97 centimes avec Lidl Plus. On peut dire qu'elles en jettent, ces courgettes. Et pour nous, c'est ratatouille.
97 centimes le kilo de courgettes chez Lidl avec Lidl Plus. Là, je suis vert. On est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidl-et-moins-cher.fr. Catégorie 1, origine France. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr.
RTL.
Le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
Le deuxième œil de Philippe Cavrivière qui regarde un peu vers le Canada, le G7, où se trouve Emmanuel Macron, qui après avoir été au Groenland, où il a dit non à la prédation américaine.
Exactement. C'est joli, hein? Qu'est-ce que c'est? Ah ben c'est l'hymne du Groenland. On n'écoute pas assez souvent l'hymne du Groenland.
On apprend des choses.
Ah oui. Alors c'est l'escalade entre Israël et Gaza, entre Israël et l'Iran. Emmanuel Macron, très logiquement, s'est dit vite, il y a urgence. Je file au Groenland. Voilà. Après, la logique présidentielle, parfois, elle m'échappe. Alors Manu est venu dire aux Américains que le Groenland n'était pas à vendre, et c'est vrai que le Groenland ne veut pas de Trump. En plus, pour dépenser de l'argent dans un glaçon qu'il rejette, Donald, il a déjà Mélania. Donc c'est pas la peine qu'il fasse deux fois le truc. Emmanuel Macron a atterri dans la capitale groenlandaise qui s'appelle
Nuuk,
voilà. Nuuk. Et c'est très joli, hein, Nuuk. Hein. Nuuk, ton centre-ville. Nuuk, ton musée. Et comme c'est au bord de l'eau, au bord de l'eau, ouais. Nuuk, ta mère, bien évidemment.
Bien sûr.
C'est là qu'a été Nakit, la célèbre expression. Et vous savez que le G7, c'est nul. Oh, je suis crevé, c'est la fin de saison. Le G7, c'est cette réunion entre pays puissants, devenus complètement impuissants et qui maintenant font des réunions un petit peu... Bonjour, je m'appelle Emmanuel et depuis quelques semaines, je n'arrive pas à être dur. Je ne durcis plus jamais avec Israël, avec l'Algérie, avec l'Iran. Même Bayrou, je ne le satisfais plus. Bravo Emmanuel. Bravo. Non, ils sont en train, on dirait mon spectacle. On dirait moi mon spectacle.
Tout autre chose, mais non. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a publié, on en parlait la semaine dernière, les déclarations de patrimoine des ministres du gouvernement Bayrou. Marc Ferracci avec 23 millions d'euros et Éric Lombard avec 21 millions sont en tête de ce classement.
Ben ouais. Ben moi, ça me rassure, le ministre de l'économie qui a de l'argent. S'il nous avait dit, putain, je suis à découvert, je dois 8 729 euros, j'ai une dette de jeu de 120 000 et je suis copropriétaire d'une tente qui échoue à Stalingrad, on aurait dit, peut-être, on n'a pas misé sur le bon cheval. François Bayrou, il a 4 automobiles, dont une Twingo. Et c'est vrai que si François était une voiture, ce serait clairement une Twingo. Un peu lent, peu fiable, avec un design légèrement discutable. C'est tout notre Premier ministre.
Alors, cela dit... Moi, j'ai une Twingo, elle était plus dynamique. Hein.
C'est vrai, oui, c'était bien. Ça envoie avec la Twingo.
Ah oui, oui.
Cela dit, nos ministres cherchent toujours 40 milliards. Oui. Alors, on fait quoi pour renflouer les caisses? À mon avis, il faut innover. On vend tout, à mon avis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'opération renflouage des caisses, nous mettons en vente ce magnifique tableau d'une dame surnommée la Goconde.
La Joconde, oui, me dit-on, oui. Dans le, pour la modique somme de 134,90€, c'est une affaire. Ou alors, dernière solution, les Français, on sait qu'ils sont généreux, on fait pitié. On fout la France dans un fauteuil électrique, on la met de travers comme Stephen Hawking avec un nounours, oh, et on dit que la France, elle est myopathe. Et puis on appelle Nagui et Sophie d'avant. 36-37, pour que la France remarche, on a besoin de vous. Le compteur a bougé. 19 104. Il faut envoyer vos dons au 36-37. On essaye à entendre des trucs.
Philippe, oui, c'est facile. L'essentiel de l'actualité avec vous, Isabelle Choquet.
Et d'abord, le départ précipité de Donald Trump du sommet du G7 au Canada et cette charge brutale contre Emmanuel Macron. Le président français avait affirmé que Trump travaillait à un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Faux, écrit le président américain sur son réseau social. Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis en route pour Washington, mais cela n'a rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est beaucoup plus gros que ça. Volontairement ou pas, Emmanuel ne comprend jamais rien. Voilà ce que dit Donald Trump. C'est beaucoup plus gros que ça. On ne sait pas de quoi parle Donald Trump. Bénédicte Tassar, il est très confus ces dernières heures, le président américain.
Inarrêtable. Donald Trump s'est agité toute la journée devant les journalistes. Même l'hôte du G7, le premier ministre canadien, Mark Carney, lui a fait poliment remarquer, tentant de canaliser un président américain, multipliant les déclarations. Ce dernier débute la journée en évoquant un accord possible de cessez-le-feu. Puis, il exhorte l'Iran à négocier avant qu'il ne soit trop tard. Avant cette menace à peine déguisée, les habitants de Téhéran feraient mieux d'évacuer. Interrogé par la presse sur le départ précipité de Trump du G7, Emmanuel Macron évoque les efforts de Washington pour emmener Israéliens et Iraniens à la table des négociations. Une déclaration non appréciée par Trump apparemment. Emmanuel Macron, qui téléphone souvent, qui s'entretient régulièrement avec le président républicain, devient sa dernière cible en date.
Bénédicte Tassar, envoyé spécial d'RTL au sommet du G7 au Canada. Sur le terrain, aucun signe d'apaisement. Israël indique avoir mené plusieurs frappes de grande envergure cette nuit contre des sites militaires iraniens. Benjamin Netanyahou rêve visiblement de frappes beaucoup plus ciblées. Tuer l'ayatollah Khamenei mettra fin au conflit. Voilà ce que dit le premier ministre israélien. Une riposte iranienne est en cours. De fortes explosions viennent de retentir à Jérusalem et à Tel Aviv. Pendant ce temps, la Russie mène des frappes massives en Ukraine. Au moins 14 morts cette nuit à Kiev, dont un Américain. C'est l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre. La présidence accuse le monde civilisé de laisser ces attaques sans réaction.
Il est 8h32, l'actualité de ce mardi, c'est aussi la fin annoncée du conclave sur les retraites.
Oui, alors François Bayrou a bien proposé une petite prolongation si nécessaire, mais pour Marie-Lise Léon, c'est non, il faut que ça se termine ce soir. C'est ce qu'a dit la secrétaire générale de la CFDT tout à l'heure sur RTL.
Pour les femmes, on avance. Sur la pénibilité, c'est le blocage. Le patronat ne veut pas reconnaître qu'il y a des métiers pénibles qui nécessite des départs anticipés. Ça fait des mois que nous le proposons. On a mis une proposition il y a 2 mois sur la table qui est simple, qui n'est pas une usine à gaz, qui permet une reconnaissance simple des métiers comme les aides-soignantes, les ouvriers du bâtiment, les personnes qui travaillent en logistique, qui ont du port de charges lourdes, etc. Donc là, nous, je dirais, la balle est dans le camp du patronat. Si aujourd'hui, ils veulent un accord, ils prennent notre proposition.
Sinon, il n'y aura pas d'accord.
Sinon, il n'y aura pas d'accord avec la CFDT, c'est clair et net.
Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, invitée de la matinale d'RTL. MaPrimeRénov est finalement maintenue pendant l'été, mais pas pour tous les travaux, uniquement pour ce qu'on appelle les monogestes, c'est-à-dire les travaux isolés comme la pose d'une chaudière ou de nouvelles fenêtres. Un geste du gouvernement en réponse à la colère du secteur du bâtiment. L'ensemble du dispositif reviendra bien en septembre, mais dans une version allégée.
Auto ou habitation, les tarifs des assurances battent de nouveaux records.
Selon le baromètre assurlande.com, le prix moyen d'une assurance habitation, c'est 274€ l'année, en hausse de 12,8% par rapport à l'an dernier. C'est le prix, si on peut dire, des catastrophes naturelles. Pour la voiture, on est à 722€ en moyenne, en hausse de presque 7%. Et là, ce sont les réparations qui coûtent de plus en plus cher, notamment à cause des pièces détachées, Christophe Bourou.
Oui, en 4 ans, on a assisté à une véritable envolée du prix des pièces détachées neuves de près de 30%, en cause de la flambée des matières premières, mais aussi des voitures de plus en plus sophistiquées, selon Olivier Moustatakis, à la tête du comparateur de prix en ligne Assureland.
Toutes les nouvelles technologies, tous les capteurs maintenant sont entièrement numérisés. Les systèmes d'éclairage adaptatif, alors c'est génial parce que Ça facilite évidemment la conduite, mais c'est également de plus en plus complexe à réparer, donc ça coûte plus cher en matière de réparation.
Pourtant, il existe un moyen simple de faire diminuer la facture.
Ce sont les pièces détachées de réemploi, les pièces d'occasion. Et malheureusement, il n'y a que 5,3% des pièces qui sont remplacées lors des réparations, qui sont des pièces recyclées, ce qui est bien dommage.
Ainsi, votre garagiste doit être en mesure de vous proposer deux devis, l'un avec des pièces neuves, l'autre avec des pièces d'occasion. C'est une obligation, n'hésitez pas à le demander. Pour un phare, un capot, un pare-choc avec de belles économies à la clé, de l'ordre de 50 à 70% en moyenne.
Christophe Bourou, spécialiste auto d'RTL. Encore un décès lié aux airbags Takata, le deuxième en métropole. Ça s'est passé le 11 juin à Reims. C'est une mère de famille d'une quarantaine d'années qui a été tuée par l'explosion de l'airbag. Elle avait percuté une glissière de sécurité sur une voie rapide. Une adolescente de 14 ans a également été blessée. Ces airbags sont déjà impliqués dans 11 décès outre-mer. Et puis souvenez-vous, en pleine crise du Covid, quand tous les avions étaient cloués au sol, on disait il y aura un avant et un après, on prendra moins l'avion à l'avenir.
Le monde d'après.
Le monde d'après, c'est celui d'avant. Le trafic progresse, le trafic aérien progresse au mois de mai dans les aéroports parisiens et il dépasse même celui de mai 2019, donc juste avant l'épidémie. C'est Orly qui bat des records. Un mot de sport pour terminer avec cet exploit hier soir au championnat d'Europe d'escrime. Le jeune fleurettiste Anas Anan, 21 ans, a décroché une médaille d'argent alors que c'est sa toute première sélection à ce niveau. Il a sorti le numéro 2 mondial en demi-finale.
Merci beaucoup à vous Isabelle Choquet. Il est 8h36.
RTL, le monde en marche.
Et c'est donc le monde en marche avec vous William Galibert. Et ce matin, François Bayrou, un roi feignant à Matignon. C'est le titre d'un grand récit du Nouvel Obs, récit qui nous plonge vraiment dans les coulisses de ses 6 premiers mois à Matignon au poste de Premier ministre.
Oui, François Bayrou voulait Matignon et il a Matignon. Mais depuis, rien. Et c'est ce rien que nous raconte si bien le magazine. Des réunions sans ordre du jour quand il y a des réunions, des décisions sans échéance ou des échéances sans décision, des comités, des conclaves, des conférences et des consultations pour savoir s'il faut encore consulter. Son agenda reste un mystère. Emmanuel Macron s'étonnerait même qu'il soit si peu rempli, écrit l'Obs. François Bayrou règne, il observe, il pense et il attend. Ah, il commente aussi. Fin mars, à l'Élysée, Emmanuel Macron réunit un carré de ministres pour débriefer un échange avec son homologue algérien en pleine crise diplomatique. Le moment est grave. Boualem Sansal est en prison. Va-t-on convoquer l'ambassadeur, expulser des diplomates? Que faut-il faire? Le chef de l'État évoque une porte qui s'est entrouverte dans le dialogue avec l'Algérie. Alors François Bayrou inspire, prend un air pénétré. Il dit « Si elle est entrouverte, alors il faut l'ouvrir ». Et un ange passe à l'Élysée. Il y a aussi des gaffes. François Bayrou croise une ancienne ministre d'Emmanuel Macron sans la reconnaître. Vous venez d'où déjà? Et lors d'un déjeuner, c'est le milliardaire Rodolphe Saadé qu'il n'arrive pas à identifier autour de la table. Et pendant ce temps-là, la pile des dossiers sur son bureau continue de grimper. La porte-parole du gouvernement lui demande sa position sur l'allongement de la rétention pour les OQTF. Réponse, on verra bien ce que dit le Parlement. La droite relance le débat sur le droit du sol. Il annonce des conventions citoyennes décentralisées. Et les déplacements, il n'en fait pas, ou peu, ou à peu. Ce n'est pas à 74 ans qu'il va changer ses habitudes.
Bon, alors, pour sa défense quand même, on peut dire, William, que les moyens d'action de François Bayrou sont aujourd'hui très limités.
C'est sûr que le style Bayrou fait de lenteur, d'introspection et de dîner entre centristes avec un petit verre de rouge à la main. C'est sûr que ce style apparaît déconnecté de notre époque. Et les jeunes loups, comme Gabriel Attal, moquent cette politique à la sauce béarnaise. Mais l'Obs écrit « François Bayrou garde bon espoir qu'avant la mi-juillet, à l'heure des vacances parlementaires, son action trouve enfin un début de cohérence et que les Français le créditeront de quelques avancées, la lutte contre les déserts médicaux ou les aides aux agriculteurs. » Et c'est aussi la dissolution qu'il a condamné à jouer les équilibristes, les prudents, les lents. S'il avait brusqué, il ne serait sûrement déjà plus là. L'Élysée voulait un peu de stabilité, au moins elle existe. François Bayrou, c'est tout l'inverse du style Macron, mais c'est sûrement pour ça qu'il a toujours le job.
Merci beaucoup William Galibert. Le Monde en marche, chaque jour un récit autour de l'actualité. À retrouver, aussi à réécouter sur le site rtl.fr et sur notre application.
La météo, Monsieur Baudin.
Oui. Bah c'est simple.
On fait le programme de la semaine.
Oui, le programme de la semaine.
Vous avez un peu la confiance en ce moment, je remarque.
Ah oui, mais j'ai la confiance parce que les prévisions sont fiables, parce que tous les modèles disent la même chose, parce que l'anticyclone s'est installé et donc le soleil qui va s'imposer aujourd'hui partout va le faire tout au long de la semaine et de jour en jour. Les températures températures vont grimper, hein, à tel point que...
C'est vous qu'il faut mettre à Matignon, en fait.
Ah, oui, ça... Sur la partie temps, ouais, peut-être, ça peut marcher, mais il y a tout le reste. Donc, en tout cas, sur la météo, c'est vrai que là, le soleil va s'imposer jusqu'à samedi et dimanche inclus, donc jusqu'au week-end inclus. Vous avez vu que hier, j'avais un peu d'incertitude. Bah, manifestement, les modèles prolongent cette période anticyclonique. Donc, ça veut dire du soleil, de la chaleur, des températures respirables le matin, mais qui vont petit à petit frôler ou dépasser les 30 degrés dans la moitié nord et pas loin de 35 degrés dans le sud. Il y aura juste un petit risque d'averse en montagne et seulement en montagne en fin d'après-midi. Et puis ce temps pourrait changer en début de semaine prochaine, entre lundi et surtout mardi, avec le retour des orages. Hein, c'est assez classique, ça va chauffer tout au long de la semaine. Et entre lundi et mardi, les orages pourraient revenir. L'atmosphère sera un petit peu rafraîchie. Puis de nouveau, des conditions plus calmes pourraient intervenir en milieu de semaine prochaine. Donc là, c'est typique de l'été qui s'installe. Mmh. Bon, et une petite semaine d'avance, mais enfin, on y est.
Merci Louis.
Place à des vacances sans nuages avec Homer. 450 000 villages en France et en Europe. Réservez sans tarder sur homer.com.
Homer.
Il est 8h40 sur RTL. Dans un instant, la santé avec Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour, bonjour à tous.
Et ce matin, un métal lourd qui inquiète les médecins et qu'on trouve dans de très nombreux aliments. Il s'appelle le cadmium.
Oui, et c'est vraiment le prochain scandale sanitaire, d'autant qu'en France, on est parmi les pays les plus contaminés et notre contamination augmente jour après jour. L'idée, c'est vraiment d'inverser la tendance.
Bon, et puis ce sera la star du jour d'Anthony Martin. Bonjour Anthony.
Bonjour, bonjour à tous.
C'est une star qui nous fait danser depuis un bon moment, qui ressemble furieusement à Philippe Cavrivière. C'est David Guetta.
Ce morceau avec Sia Carton, David Guetta ne lâche rien. On risque de l'entendre et d'entendre du Guetta tout l'été. Trois autres de ses chansons sont dans la course au tube de l'été, plus de 20 ans après ses débuts. C'est fort quand même.
Et là, c'est avec Sia. Hein.
Ouais.
Tout de suite sur RTL, 8h41.
RTL Matin, Thomas Soto et Amandine Bégaud.
Dragon. Sur l'île de Burk, où tuer un dragon est un rite de passage, un garçon va faire un choix inattendu.
Je suis le premier viking qui veut pas tuer de dragon.
Plutôt que de combattre, il va nouer une amitié qui va changer leur monde.
Grand coup, t'inquiète, je vais rien te faire.
Envolez-vous dans cette aventure spectaculaire.
T'es prêt mon grand ?
C'est parti !
Dragon, actuellement au cinéma, avec RTL. RTL.
Pourquoi Banque Populaire est la première banque des entreprises ?
Développer mon entreprise et maîtriser son impact sur la société et l'environnement, c'est un vrai défi. Alors Paul, mon conseiller Banque Populaire, m'a parlé du prêt à impact. Si mon entreprise atteint ses objectifs de RSE, elle peut bénéficier d'un remboursement d'intérêt.
Soutenir nos entreprises clientes dans leur transition durable, c'est ça être la première banque des entreprises. Banque Populaire, la réussite est en vous. Sous réserve d'acceptation par votre Banque Populaire. Étude Kantar PME PMI 2023, 14 Banques Populaires, première banque des PME.
Ça va beaucoup mieux sur RTL.
Ça va beaucoup mieux avec Jimmy Mohamed et docteur. On a reçu pas mal de messages inquiets depuis plusieurs jours. Et vous nous parlez donc du cadmium, parce que ces messages concernent le cadmium, qui serait la nouvelle plaie de nos assiettes, très mauvais pour la santé. Alors docteur, déjà, pour commencer, c'est quoi exactement le cadmium ?
Alors le cadmium, c'est un métal qui est présent dans des engrais qui sont utilisés en agriculture, qui va malheureusement s'accumuler dans les sols et contaminer les aliments qu'on va consommer. Le problème, c'est que ce cadmium, il est considéré comme cancérigène et il va se comporter comme ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien. Il augmente le risque de maladies rénales, de maladies cardiovasculaires, il altère la reproduction et augmente le risque de certains cancers. D'ailleurs, des chercheurs suspectent que ce cadmium soit responsable de l'explosion des cas de cancer du pancréas chez les plus jeunes.
Et Jimmy, comment on sait si nos aliments sont contaminés par du cadmium ?
Eh bien, on ne le sait pas, il faut partir du principe qu'ils le sont tous quasiment. Les applications, vous savez, mobiles type Yuka ne mentionnent pas cette contamination et ce n'est pas non plus marqué sur les étiquettes. En fait, les aliments les plus contaminés seraient les céréales avec le blé, le pain et la pomme de terre. Et d'après les experts, il faudrait donc limiter la consommation de ces aliments. En clair, pas de céréales au petit déjeuner, pas de biscuits industriels, moins de pâtes, moins de frites, moins de purées et moins de pain auquel malheureusement nous sommes si attachés.
Bon, mais est-ce que manger bio, docteur, protège de ce cadmium ?
Oui, les experts expliquent malgré tout que les aliments bio contiendraient jusqu'à 50% de cadmium en moins. Mmh. Alors malheureusement, tout le monde ne peut pas se permettre de manger bio. Donc dans l'intervalle, les petits conseils qu'on peut vous donner, c'est 1. Bien éplucher les légumes. Car en fait, le cadmium, il se concentre dans la peau et dans les couches superficielles. Donc je vous ai dit que les pommes de terre étaient à éviter. À la limite, si vous voulez en consommer, il faut absolument les éplucher, les laver soigneusement, et puis essayer de privilégier d'autres aliments, même si je sais que c'est pas facile, comme les fruits, qui sont moins contaminés.
Mmh. Si vous faites une raclette et que vous remplacez les pommes de terre par des fruits, c'est quand même pas, c'est pas la même limonade.
C'est pas de saison.
En fait, l'idée, c'est de varier son alimentation, et si vous avez un petit potager, ça c'est la bonne nouvelle pour les auditeurs qui ont peut-être un jardin, eh bien, il est probable que votre jardin, votre potager ne soit pas contaminé par ce cadmium.
Probable, ça veut dire pas sûr, même si on n'y a rien à
ajouter. On n'est pas certain, exactement.
On imagine, Jimmy, que nous ne sommes pas tous sensibles de la même façon à ce cadmium.
Oui, prudent chez les enfants et les femmes, notamment les femmes qui font de l'anémie. En fait, quand vous faites de l'anémie, le plus souvent, c'est à cause d'une carence en fer, à cause de règles qui sont trop abondantes. Or, quand vous manquez de fer, le fer c'est un métal, et bien le cadmium, qui est un métal, va prendre la place du fer dans l'intestin et être absorbé beaucoup plus facilement. Il faut donc impérativement que les femmes et les enfants qui ont une éventuelle anémie, et bien il faut absolument qu'on la corrige. Et je vous le disais, l'idée c'est de varier notre alimentation le plus possible, de ne pas manger tous les jours la même chose, en attendant donc les autorités sanitaires s'attaquent réellement à ce scandale qui touche la terre entière. On parle de la France, mais on a le même problème en Chine, aux États-Unis ou encore en Italie.
Et c'est vrai que c'est un sujet qui va devenir urgent. Et on retient au moins un conseil pratique, c'est qu'on épluche vraiment très soigneusement les légumes et de manière assez prononcée, on va dire. Merci beaucoup, docteur. 64-900, si vous avez des questions pour le docteur Jimmy Mohamed, il y répondra vendredi matin.
8h46 bientôt sur RTL, votre star du jour, Anthony. C'est donc le DJ David Guetta qui va une fois de plus nous faire danser tout l'été.
Oui, trois de ses derniers morceaux sont bien partis pour être présents sur la bande-son de notre été. 23 ans après la sortie de son premier album, David Guetta est donc encore dans la course, et même plus que jamais. C'est rare dans le monde des DJ, c'est une performance. Son tout nouveau single, sorti il y a 4 jours, Taillé pour gagner, a pour titre Un monde meilleur, A Better World.
Restez avec nous.
Bon réveil. Bon, c'est assez imparable quand même. Hein. David Guetta est allé rechercher le morceau américain If de la chanteuse Jackie Moore, un morceau soul des années 70. Il a un peu accéléré la voix. Il l'a samplé, c'est la voix féminine qu'on entend là.
Autre titre signé David Guetta qui monte en puissance.
Alors sorti le mois dernier, vous vous souvenez du tube de 86, The Final Countdown,
Europe.
Ouais. Voilà, ben, il en a fait ça. Ça aussi, c'est signé David Guetta.
C'est
et on
toujours
va
sur RTL.
On va l'entendre cet été.
Bon, et alors, revisiter, redonner vie comme ça à de vieux morceaux, c'est désormais sa marque de fabrique.
Ouais, parce que c'est une recette qui marche. Ce morceau de David Guetta de 2022 vous dit quelque chose ? Avait repris la musique du tube Blue du groupe italien Eiffel 65, tube de 1999. Et bien ce morceau de David Guetta a atteint cette année, il y a quelques semaines, les 4 milliards d'écoutes en streaming. 4 milliards d'écoutes en streaming, toutes plateformes de streaming confondues. C'est phénoménal. À ce jour, évidemment, c'est le plus gros succès de David Guetta.
Dis donc, entre votre ambiance musicale et Louis Baudin qui nous dit qu'il faisait un temps aller à la plage, on va oublier de venir travailler demain. Bon, il est toujours le DJ français le plus écouté dans le monde, Guetta.
Oui, rien que sur la plateforme Spotify, le DJ David Guetta a 78 millions d'auditeurs mensuels. Il a été le premier Français à rejoindre le petit club des artistes les plus écoutés dans le monde en streaming. Il a terminé l'année 2024 en étant l'artiste européen le plus streamé. C'est le Français le plus suivi sur YouTube avec 27 millions et demi d'abonnés.
Et on va pouvoir le voir en France cet été.
Oui, deux apparitions dans le cadre de son Monolith Tour. Dans 4 jours, samedi 21 juin, pour fêter la musique, il se produira à Marseille au Stade Vélodrome devant 65 000 personnes. Un show XXL avec écran gigantesque et feu d'artifice, une première pour lui en solo. C'est complet d'ailleurs. Et le 19 juillet, David Guetta jouera à Paris, à l'Hippodrome de Longchamp, dans le cadre du festival Lollapalooza. On entendra à Marseille et à Paris le troisième morceau, alors lui très latino, signé David Guetta, qui va rythmer notre été, c'est celui-ci. C'est la première fois que David Guetta s'essaye à la musique latino. Là, il est avec les artistes Willy William et Nicky Jam. Peut-être.
Annoncer la chorégraphie. Guetta, la star du jour et la star de l'été. Merci à tous. On vous a retrouvé la version originale de Europe, The Final Countdown. On dirait un petit menuet à côté de ce que vous avez fait écouter. Hein. Tarbour final avant que Laurent Gérard vienne nous rejoindre avec Jade sur RTL. Il est 8h50.
RTL Matin. Thomas Soto et Amandine Bégaud.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 3012 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG.
Noroto. C'est quoi cette musique? Tu t'es mis à la méditation?
Même pas, je suis juste détendu.
Toi, détendu? Oh ben c'est nouveau ça.
J'ai entendu que Noroto remboursait jusqu'à 120 euros pour l'achat de pneus Michelin. Il y a de quoi être zen.
120 euros? C'est pas vrai.
Et si c'est vrai? Jusqu'au 27 juillet, pour l'achat de pneus Michelin, Noroto vous rembourse jusqu'à 120 euros. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude Opinionway, mars 2024. Conditions en centre et sur noroto.fr.
Qu'est-ce qui vous fait aimer le camping? C'est de pouvoir faire la grasse mat sous la tente. Après, quand on dit grasse mat, c'est sans compter le réveil de vos enfants qui, dès 7h du matin, décident de prendre votre matelas pour un trampoline. Chez Decathlon, on parie que vous allez adorer la technologie Fresh and Black de notre tente qui garde la fraîcheur et l'obscurité. Cette semaine, la tente Arpenaz 5 places 2 chambres est à 279,99€ au lieu de 349,99€, soit 70€ de remise.
Cet été, c'est l'Italie, toute l'Italie qui viendra à vous. Grâce à une merveilleuse, une prodigieuse porteuse de lettres. La porteuse de lettres, c'est le roman phénomène de Francesca Giannone. Au cœur des Pouilles, aux mille senteurs, aux mille saveurs, l'épopée d'une femme libre qui, par son métier de postière, va se retrouver au centre de toutes les passions d'un petit village. La porteuse de lettres, le roman numéro 1 en Italie, va donner à votre été toutes les couleurs, toute la beauté, toute la passion du mezzogiorno. Un roman Albin Michel.
Ça ira, chez Citroën, nous on ira. Ça ira, nous ce qu'on veut c'est des prix bas.
Pendant les journées révolutionnaires, profitez de prix canon sur tous nos modèles Citroën, chez l'un de nos 1300 agents partout en France.
Ça ira, des journées comme ça, on attendait que ça.
Citroën. Offre valable jusqu'au 30 juin dans le réseau d'agents participants.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Ce mardi, jackpot record Euromillions de 250 millions d'euros. Et vous, quel millionnaire seriez-vous? FDJ, montant à partager au rang 1, plafonné à 250 millions d'euros, voire règlement sur fdj.fr. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
Thomas Soto, Amandine Bégaud,
RTL Matin.
Avec Mademoiselle Jade et Laurent Gérard. Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Bonjour Thomas, Amandine, bonjour tout le monde. Le syndicat Sudrail a déposé un préavis de grève du 12 juin au 1er septembre. Les Français vont-ils en tenir compte pour préparer leurs vacances d'été? Voyons cela sur le terrain avec nos amis Chevalier et Las Palès.
Bonjour messieurs, je voudrais un billet pour Pau le 1er juillet s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous allez faire à Pau?
Un séjour gastronomique.
Vous avez dégusté des petits écoliers à Bétarame?
Mais enfin, ça ne vous regarde pas. Donnez-moi mon billet.
D'accord, je vous préviens, il y a un préavis de grève du 12 juin au 1er septembre.
Ah bon, mais c'est tout l'été?
En effet. Ils voulaient le déposer le 12 juin 2025 au 12 juin 2026, mais ils avaient peur que ça fasse trop.
Mais enfin, mais c'est pas possible.
Si, c'est possible. C'est même notre slogan. SNCF, c'est possible. C'est même à ça qu'on nous reconnaît.
Ah oui, et on n'en sait pas plus sur les dates de grève?
Non, ils se réservent la possibilité de faire des actions surprises. Ah, ah, surprise. Croyez que vous avez un train et hop, surprise, il n'y a plus de train, il n'y a plus de train.
Bon, ben je vais faire comme d'habitude, hein, je vais prendre l'avion. En revanche, je sais quoi acheter à ma femme pour son anniversaire. Elle qui veut toujours que je lui fasse des surprises, je vais acheter un billet de train. Un billet de train qui part pas.
C'est vous qui voyez.
L'Académie de Dijon vient de lancer une initiative permettant aux enseignants d'autres matières d'enseigner le français après un entretien d'une demi-heure. C'est authentique. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, a tenu à participer elle aussi à cette grande opération de recrutement.
Ah, voilà un candidat. Entrez, je vous en prie.
Osez-vous, madame. C'est là où est-ce que, qu'on peut faire la recrutation, recrutationner comme prof de CFRAN?
Oui, jeune homme, c'est bien ici, mais d'abord, présentez-vous un peu, si vous le voulez bien.
Ouais, MC Bâtard, madame, j'habite cité Bouba à Crégny.
Très bien, mon petit MC, qu'enseignez-vous?
J'enseigne le tag, le rap, le graphe, le rodéo, le tir et l'économie, madame. Comment changer les gros billets? Comment garder ses clients? Comment dégommer ses concurrents à la calache?
Très bien, je note spécialité économie. Quelles sont vos motivations pour devenir professeur de français?
Les vacances, madame. Et puis aussi trouver des nouveaux clients au collège, au lycée, chez les profs.
Ah, je suis désolé, mon petit MC, mais ça ne va pas suffire. Il faut aussi aimer et connaître les grands auteurs.
Oh, madame, madame, je les connais par cœur, les grands auteurs. Je connais Caris, Bouba, Nino, La Fouine.
Oui, et vous connaissez Hugo?
Ouais, Ziba la Bouffonne, Hugo Boss, c'est pour les boomers. Moi, je porte que du Adidas.
Alors, je voulais naturellement parler de Victor Hugo, c'est l'auteur de Notre-Dame de Paris.
Ah ouais, c'est lui comme il fait. Et tu l'as pas dit au keuf, madame?
Bon, écoutez, laissez-moi votre CV et nous vous rappellerons.
Oh, mais non, t'as vu que je te laisse mon 06? Une dernière question, comme prof de CFRAN, on peut être payé en liquide?
La 13e saison de l'émission de télé-réalité Secret Story vient de débuter. Le principe est simple. Enfermés pendant plusieurs semaines dans la maison des secrets, les candidats doivent cacher leurs secrets pour conserver leur cagnotte. Nous nous sommes procurés des extraits du casting au cours desquels certains candidats malheureux ont été écartés. Candidat suivant, bonjour monsieur.
Et salut la vieille.
Bon, présentez-vous s'il vous plaît.
Bon, ben moi, mon petit nom c'est Jean-Marie, le gars. Mais tu peux m'appeler Bigard, comme les steaks cachés du même nom, le gars.
Bon, quel est votre secret, Jean-Marie?
Ben, j'en ai plein des secrets. Sur le 11 septembre, sur le Covid, sur les Illuminati, le gars. Mais pour l'émission, mon secret, c'est que j'ai toujours une énorme envie de chier, le gars. Oh non. Alors que les autres candidats, ils passeront après moi dans la piscine. Ils devineront jamais qui c'est qui a fait ça.
Bon, écoutez, c'est excellent, c'est original, en effet. Mais je dois voir avec la chaîne si c'est compatible avec les annonceurs.
Ça me rappelle l'histoire du type qui a deux énormes couilles. Alors, quand il va dans la piscine, il remonte toujours à la surface sur le dos, le gars.
Candidat suivant.
Salut, c'est Patrick. J'ai vu qu'il y avait un casting avec une cagnotte à gagner. Alors, comme je sais tout faire, et que j'ai un peu de temps d'attendre les vendanges, les confitures, le miel, la simplification, mon hôtel, mon accord arena, mon film, ma partie de poker en ligne, j'ai postulé. En plus, j'ai un énorme secret.
Ah oui, quel genre?
Je peux pas te le montrer tout de suite, mon secret. Tu le verras à la piscine, mais crois-moi, c'est du XXL. J'ai pas un slip en papier qui résiste.
Alors, au suivant, nom et prénom.
Ça y est, c'est à moi?
Oui.
Alors, attendez, j'ai noté nom, Castaldi, prénom, Benjamin.
Ah ben, je vous ai déjà vu quelque part, vous?
Ah bon, vous m'avez reconnu? Pourtant, j'ai beaucoup maigri avec comme j'aime.fr. Mais c'est normal que vous m'avez déjà vu. C'est moi qui ai présenté Secret Story pendant 8 ans.
Bon, bah d'accord, alors allons-y. C'est quoi votre secret?
Mon secret, c'est que je suis le petit-fils de Yves Montand et que ma mamie cocu, Simone. Mais chut.
Oui, bon, bah ça, c'est pas un secret. Vous avez déjà écrit 5 livres dessus, hein?
Oui, c'est vrai. Mais comme les autres candidats de Secret Story, ils savent pas lire, c'est moi qui vais gagner la cagnotte.
Merci Laurent Gérard et Jade. À suivre d'ici 10h sur RTL. On n'est pas toujours d'accord. Le débat du mardi, Philippe Martinez, ancien secrétaire général de la CGT, et François Langlais, éditorialiste ici à RTL. Et puis une invitée de prestige, s'il vous plaît.
Et oui, puisque Juliette Binoche sera avec nous à partir de 9h40, après avoir présidé le festival de Cannes. Il y a quelques semaines, elle vient nous présenter son tout dernier film qui sort demain. Le titre, Thomas ?
The Return.